Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct sur 48FM pour une deuxième émission. En ce dimanche matin, on était là hier matin pour le 8e forum du vin de Mende. Bonjour à tous, bonjour Frédéric qui va m'accompagner ce matin.
Et bonjour Guillaume, merci pour ton invitation. Tu as su repérer l'alcoolique de la radio pour pouvoir.
Bah, en fait, il y en a certains qui étaient là hier, mais qui n'ont pas tenu
Ils n'ont pas tenu le coup.
voilà, donc c'est l'équipe réserve aujourd'hui. Autour de la table, on va retrouver un certain nombre de vignerons, un sommelier, et puis on va retrouver aussi les membres de l'association Les Sarmentelles qui organise ce forum du vin. Et on commence cette matinée, cette émission va être surtout autour des vins qui ont été primés hier. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce concours des vins de demande, Guy ?
Oui, bonjour tout le monde. Ben voilà, alors le concours, d'abord ça s'est bien passé. Ben oui. On a réussi à avoir des médailles.
Bon, un concours de vin
ça a été un petit peu
mal,
compliqué à un moment, mais on a réussi tout de même. Non, c'est parce que c'est vrai qu'il y avait des échantillons qui méritaient quand même qu'on les redécouvre. Et on a un peu bugué à un moment, mais voilà, c'était excellent, on s'est régalé. L'intérêt d'un concours des vins sur Mende, c'est déjà aussi de faire la promotion des vins du Languedoc. C'était un peu l'engagement que l'association avait pris par rapport à nos viticulteurs de cette même région. Maintenant, la région s'est élargie. Le concours, je l'ai dit hier, n'est pas encore labellisé pour accepter les producteurs de la partie Midi-Pyrénées. Donc, pour le moment, on peut présenter dans ce concours-là toujours que les Languedoc-Roussillon.
L'année prochaine, peut-être, non ?
Alors, l'année prochaine, oui, c'est bon. L'année prochaine, on sait que ce sera OK. Par contre, pour le moment, nos bénévoles sont formés essentiellement sur des vins rouges. Donc, le concours s'adresse qu'aux vins rouges en bouteille. L'année prochaine, on sera encore sur cette gamme-là. Et après, peut-être l'année d'après, on ouvrira sur des vins blancs. On va voir, parce qu'il y a un gros effort de la part du Languedoc dans cette production de vins blancs. Et on découvre, par exemple, quelques petits vionniers. On va les voir tout de suite, d'ailleurs, hein, qui sont remarquables, même quand on les met en association avec un chardonnay, par exemple, ce qui va être le cas. L'intérêt de ce concours, eh ben, c'est aussi de donner des médailles pour que les gens sachent qu'en achetant un verre à Montpellier avec le petit logo ou repère Mende, ben, ça fait une porte d'ouverture sur notre communication. Donc, voilà, on vend aussi le département au travers de ce concours-là. Et il me paraît normal de faire rentrer Mende en tant que représentant, enfin chef-lieu de la Lozère, sur la région Languedoc-Roussillon. On faisait partie de ces 5 départements-là. Donc, il faut aussi vivre comme on va vivre dans le Midi. Voilà.
Combien de catégories, comment ça se passe, un petit peu
Alors bon, Jean-François aurait pu répondre là-dessus, mais Jean-François n'est pas trop non, rodé.
Je poserai des questions tout à l'heure.
Jean-François est trésorier de l'association, le nerf de la guerre, gère, toujours.
Voilà. Je gère les comptes.
Alors, achète les bouteilles.
En fait, la réglementation ayant évolué aussi, on est obligé d'adapter un petit peu notre concours, ce qui fait qu'on est resté toujours avec les 3 familles. La première, c'est les IGP-VDP. On est resté sur les 2 années de production.
Il faut y aller tranquillement, là, parce qu'on a des auditeurs qui disent « Hop, hop, hop,
les vins de pays.
Les
identités. C'est ça. Géographique protégé, voilà. Ça, c'est une première famille. Avant, on faisait des médailles d'or, argent et bronze pour cette famille-là. Et aujourd'hui, on a décerné qu'une distinction, c'est ce qu'on appelle le coup de cœur. Et d'ailleurs, le lauréat est autour de cette table. Il nous en parlera un petit peu. Ensuite, dans la famille des AOP, AOC, c'est des appellations d'origine contrôlée. On est sur les années donc 2014 et 2015. Là aussi, une grande surprise, ils viennent pour la première fois, 2 prix. Ils font médaille d'or et médaille de bronze. Bon, l'argent, quand même, ils nous l'ont laissé pour quelqu'un d'autre. Alors, merci, c'est gentil
c'est
de partager.
Gentil un tout petit
mais
peu
c'est
partagé.
Moyen, moyen quand même.
Et ils sont autour de la table.
On les félicite d'avance.
On ne va pas en dire plus parce que c'est une dame qui représente le domaine. Alors, quand même, on va la respecter. Mais c'était un très, très beau travail. Il n'y a eu aucune hésitation. Et ensuite, les vieux millésimes. Les vieux millésimes, c'est la 3e famille. Là aussi, on aura les 3 médailles, or, argent, bronze. Les vieux millésimes, sans distinction, ça sera du monocépage. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, que de la Syrah qui va faire le support du vin. Ou après, un assemblage, ça pourrait être un AOP, un AOC, avec tous les critères du cahier des charges qui bien sûr, comporte cette appellation-là. Par contre, là, on sera sur les 2013, 2012, 2011 et 2010. Voilà, c'est ce qui était présent dans le concours. Les 3 familles.
Bon, alors on va commencer par ce coup de cœur et puis on reviendra un petit peu sur comment ça s'est passé, ces dégustations pour ce concours. On va commencer par cette première dégustation avec le domaine Roc de Gachonne. C'est à Calvisson dans le Gard, c'est ça ? Voilà, alors peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu ce domaine, votre activité, votre terroir aussi.
Voilà, donc on est un tout petit domaine qui est situé après Nîmes. Donc,
Il faut manger le micro. Ouais, comme quand vous buvez un verre, voilà, vous faites comme si vous buviez
donc,
votre micro.
On est entre Nîmes et Sommières, donc sous les coteaux Vonajol. Donc on a un domaine donc, qui est entouré de garrigues. On produit notamment sous le coup de cœur du Syrah. Le Syrah, c'est un cépage qui est vraiment un coup de cœur pour nous personnellement. Parce qu'on trouve qu'avec le Syrah, on peut faire divers produits, on peut faire des très bons rouges, des très bons rosés. Donc on a une manière culturelle qui est assez dure, puisqu'on fait des palissages très hauts, on fait pour arriver à des produits élaborés.
Un palissage très haut, voilà. Il faut nous expliquer.
Alors c'est-à-dire que le Syrah, c'est un cépage qui crée énormément le vin. Oui. Alors donc on met plusieurs styles de fil releveur pour tenir des surfaces foliaires assez élevées. C'est la surface foliaire qui nourrit le raisin. Donc voilà, on fait un travail bien particulier sur ce cépage. Et après, lors de la vinification, on ramasse donc en surmaturité. Parce que c'est notamment sous des rouges. C'est un cépage qui a besoin de beaucoup de soleil pour vinifier.
Voilà. Donc on n'est pas sur de la vendange tardive, mais on est vraiment sur une vendange...
Voilà, on pousse la maturité.
Le plus tard possible. Voilà, on vendange quand chez vous ?
Alors, la
pour
vendange...
Pour tous les bénévoles qui vont vouloir descendre...
on commence à vendager sur des blancs à partir de fin août. Voilà, sous les chardonnays. Et le Syrah, lui, va se situer plutôt mi-septembre. Voilà.
Okay. Et vous vendangez comment là ?
Alors, on travaille sous les deux sortes. On vendange mécaniquement. Mm-hmm. Et sous certaines cuvées, on les fait manuellement. Voilà, on fait donc sous les deux tableaux. Quoi.
D'accord.
Bon, et là, le domaine, on peut le dire, hein, c'est un domaine d'à peu près combien de superficie ?
Alors, sur le domaine, on a 43 hectares.
Ah oui, et forcément, vous, on ne fait pas tout à la main.
Voilà, 43 hectares. Exactement. Voilà.
Et vous êtes en production dans les trois couleurs, c'est-à-dire rouge, rosé et blanc aussi. Hein. Rouge, mais par contre, blanc. En blanc, vous avez diversifié un petit peu, puisque vous réintroduisez du Viognier dans votre culture.
Voilà, donc le Viognier, c'est aussi un cépage bien particulier. Et donc on adore aussi ce cépage-là. On l'assemble, avec, notamment en bouteille, avec du chardonnay. On trouve que ça dégage un arôme supplémentaire. Voilà, le Viognier est un cépage aussi qui est assez délicat, puisque nous, on a des problèmes de mistral, vous avez pu entendre. Donc, oui. Palissage aussi très important, etc. État sanitaire, bon, parfait. Le Viognier, c'est un cépage qui ne supporte pas la charge trop élevée. Donc, il nous faut travailler en verre aussi. Donc, voilà, c'est...
Si tu peux préciser ce que c'est que la charge.
La charge, c'est le poids de raisin par pied, quoi.
Voilà, parce qu'en fait, ils font une vendange en verre, c'est ça ?
C'est ça, tout à
fait. Donc ça veut dire une vendange en verre, ça veut dire qu'on va tomber du raisin pour éviter qu'il y en ait trop, en fait. Ce qui permet de limiter le rendement. Voilà. Donc, ce qui est nécessaire, de toute façon, pour avoir des vins d'une très bonne qualité, enfin, d'un très bon prix, d'une très bonne qualité. Voilà, cherchez mes mots.
Donc au milieu de l'été, on enlève des raisins, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais. Une vendange en verre, ça veut dire que le raisin est encore vert et on va tomber du raisin. Voilà.
Donc on ne fera rien.
Et ce qui permet d'avoir une meilleure concentration, puisqu'il y aura moins de grappes sur la souche.
Et un meilleur ensoleillement.
Alors, c'est vrai que là, on parle un petit peu de blanc, et c'est celui qu'on va déguster entre nous, hein, parce qu'après tout, il ne faut pas se priver des bonnes choses.
Entre nous, on s'excuse pour les auditeurs.
Ceci dit, ça aurait été intéressant que notre sommelier nous parle un petit peu de ce vin qui a été primé en coup de cœur.
C'est ce que j'allais dire.
Puisque c'est quand même un vin rouge 100% Syrah.
C'est ça, 100% Syrah.
Qui a été travaillé de façon calme. Hein, mm-hmm. Voilà. C'est un vin qui se trouve dans une fourchette de prix très très basse,
oui,
ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de penser que les vins du Languedoc, dès qu'on veut de la qualité, on doit mettre du prix vraiment. On est dans une tranche qui a moins de 6 euros. Quoi, voilà. Ça permet à tout le monde de découvrir un petit peu ces petites perles. Et puis, Jacques va vous en parler un petit peu parce qu'on est sur du fruit, on a déjà la valeur de la Syrah avec ses saveurs un peu violiennes.
Alors, qu'est-ce qui a fait le coup de cœur du jury hier sur ce vin?
Voilà, donc c'est que donc on a dégusté, il y avait à peu près une dizaine d'échantillons. Et c'est vrai que ce qui est ressorti, ça va être un peu ce côté un peu gourmand en fait, qu'on a trouvé dans votre vin. Voilà, très sur le fruit, c'est relativement léger, très agréable. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens vont plutôt sur des vins avec un degré un peu moindre, oui, un peu moins de concentration et peut-être une buvabilité plus importante. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est d'avoir une buvabilité intéressante. Parfois, c'est vrai qu'il nous arrive, quand on boit des rouges, qu'au bout du premier verre, on a un peu de mal derrière sur des vins qui font 14,5, 15 degrés. C'est vrai que... Bon, voilà. Et c'est vrai que la tendance vient de plus en plus à boire peut-être des vins avec un peu moins de degrés, voilà, plus une facilité plus importante à boire. Et puis surtout, voilà, c'est très gourmand, c'est très sur le fruit. Et je pense qu'auprès des consommateurs, mais je pense que ça va bien passer. Quoi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ce monsieur n'en a plus aujourd'hui. Donc voilà, un signe que quand même le concours était de qualité et les gens qui sont venus déguster les vins, on l'a trouvé bon. Et donc malheureusement, le vigneron n'en a plus.
Et ce vin, vous le commercialisez comment?
Alors nous, on fait beaucoup les marchés. On fait très peu les salons. D'ailleurs, c'était un des premiers salons. Donc on est très ravis parce qu'on a été super bien accueillis déjà. Une organisation très bien faite, je trouve. Voilà. Et donc nous, on a l'habitude de faire des marchés. On a des marchés fixes à l'année. Donc on écoule notre production comme ça.
Sommière, Uzès?
Alors, pas Sommière, non. On fait pas Lavas, bord de mer. Voilà, on fait Cabissol le dimanche matin, que c'est un très joli marché. Alors, on fait à côté d'Uzès, oui, on est à Garrigues-Sainte-Eulalie le vendredi, oui. Et le samedi, on est à côté de Montpellier, on est à Saint-Gilles-du-Fesc. Voilà pour les marchés. Ah ouais. Et donc, on faisait très peu de salons, on a l'habitude de travailler, comme ça, à marcher. Quoi. Et c'est un des premiers salons et on est très ravis, on est très 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 ravis d'être à Mende.
Voilà, c'est effectivement une venue qui est concrétisée directement.
Peut-être que maintenant, on pourrait parler un peu de ce fameux vin blanc. Et on pourrait demander à Jacques qu'est-ce qu'il en pense. Et après, voilà. On mettra à contribution le domaine Cantevigne pour qu'elle nous dise qu'est-ce que vous pensez de votre collègue. Est-ce qu'il travaille correctement là? Parce que c'est bien beau, le micro, on n'a pas l'image. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? On te laisse en
parler un peu. Bien, donc d'abord, deux, trois informations sur ce vin. Donc déjà, lorsqu'on sert un vin, il y a quelques petits trucs donc, à faire qu'on peut donner aux auditeurs.
Bien sûr.
Pour avoir un petit peu quelques informations sur ce vin. Donc comme vous pouvez le voir autour de la table, dans le verre, dites-moi, mais vous pouvez me le dire, je pense, quel est à peu près le reflet de ce vin. Donc si tout le monde le voit bien, on a un petit reflet jaune avec un peu de vert. Donc une couleur paille, et ça c'est signe qu'on est sur un vin jeune, vous voyez. Donc même vous, qui sans voir la bouteille, on peut arriver déjà à déterminer quel est l'âge d'un vin grâce à ça. Hein, voilà, donc effectivement, donc on est sur un millésime récent, je crois qu'on est sur 2014, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Voilà, donc avec un pourcentage, donc on est sur deux cépages, un cépage Viognier, donc qui est plutôt un cépage qui vient de la vallée du Rhône, et un cépage donc de Chardonnay, qui vient sur un pourcentage de... On est sur combien?
On est aux alentours des 70% de Viognier et 30% de Chardonnay.
Voilà, donc c'est un assemblage. Donc c'est un vin. Voilà, donc écoutez, on peut le sentir. Si vous voulez, on peut s'amuser. Donc vous faites.
Chers auditeurs.
Voilà, je sais que c'est pas très radiophonique.
Ça donne les clés pour le faire à la maison. Voilà, donc, d'autres vins.
Voilà, donc on peut faire tourner comme ceci. Voilà. Hein, donc je fais tourner mon vin dans le verre et puis je vais mettre le nez dedans. Allez-y tous. Voilà, donc évidemment, on peut essayer de déterminer un peu quels sont les arômes qui sont présents. Donc allez-y, hein, autour de la table, n'ayez pas honte. Hein, donc on peut dire...
Ah ben voilà, Guy se resserre, ben bravo.
Et là, on va dire quel est notre ressenti, quelle est nos sensations. Est-ce que ça vous fait penser à du fruit? Est-ce que ça vous fait penser à un côté floral? Donc je pense qu'on est quand même sur un petit côté fruité. Hein, oui, un petit peu, un côté un peu fruit exotique, même un petit peu abricot, pêche, on est plutôt sur des fruits à chair blanche. Et ensuite, on a un petit côté floral, ça fait un peu penser à des fleurs blanches, un petit peu amandier, un petit peu cerisier. Voilà. Donc ensuite, on peut le mettre en bouche si vous voulez. Voilà, et ensuite, on va essayer de déterminer...
10, c'était que maintenant pour la mise en bouche. Non, je précise quand même, pour ceux qui ne nous voient pas,
oui, mais
qu'il est en son quatrième.
J'ai besoin, j'ai besoin que...
Il y en a qui ont plus besoin de
la ressalte plus rapidement, voilà.
Je comprends, je comprends.
Voilà, donc lorsque l'on met la main en bouche, eh bien, on va essayer de voir un petit peu, ben, s'il y a un peu d'acidité, s'il y a un peu de gras, et voilà. Et puis après, bien sûr, la question qu'on va tous se poser, c'est... qu'est-ce que je vais pouvoir servir avec ce vin, puisque la finalité en fait, du vin, c'est de pouvoir l'associer à un plat. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le côté un peu plus compliqué en fait, que l'on peut ressentir et qui est difficile donc, à trouver. Mais c'est vrai que bon, ben, il ne faut pas hésiter à essayer. Hein. Donc, c'est vrai que sur des vins blancs comme ça, moi, je vais donner un petit truc à nos auditeurs, c'est que quand on ne sait pas, souvent, on va voir la couleur de ce qu'on mange. Et si ce que je mange, c'est blanc, souvent, ça ira très bien avec du blanc. Et si je mange quelque chose qui est de couleur rouge, ça ira très bien avec le vin rouge. Voilà.
Tout donc, simplement.
Voilà, tout simplement. Alors, des fois, voilà, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Hein. Donc, voilà, tout ce qui vient de blanche, ça peut passer très bien avec du blanc. Et c'est vrai que le vin rouge, on va plutôt quand même le conditionner, ben, surtout ce qui est rouge, plutôt de la viande. Donc, voilà.
Et donc. Donc là, le conseil du sommelier, il associerait ce vin avec quel plat
ben, par exemple, bon, y a pas mal de gras quand même. Donc je pense qu'une volaille, ben, sans problème, hein, ça tiendrait la route. Bien sûr, du fromage, hein, puisque on sait qu'à peu près il y a 90% des fromages qui seront mieux acceptés avec du blanc qu'avec du rouge. Et puis bien sûr, ben, tout ce qui sera à base de poisson, hein, voilà, hein, ça ira très bien. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails plus compliqués, parce que c'est vrai qu'en fonction d'une sole et par exemple d'une lotte, eh bien, c'est vrai que je ne mettrai pas du tout les mêmes vins dessus, surtout au niveau de l'accompagnement. Parce qu'en fait, ce qui va faire le choix du vin, ça va être plutôt sur les sauces, bien sûr, et surtout de l'accompagnement en légumes. Voilà, c'est ce qui va faire aussi changer un petit peu le choix du vin. Mais bon, pour rester simple, je pense que déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, ce qui est blanc marche très bien avec du blanc, et ce qui est rouge marche très bien avec du rouge. Et déjà, si on fait ça, ben, on aura gagné... une belle bataille.
Alors, on va effectivement, bah, comme Guy le proposait, peut-être avoir votre avis sur ce vin. Qu'est-ce que vous en dites ?
Donner un avis sur un collègue, ça, c'est pas simple. Ça, j'aimerais pas être à votre place. Oh, vous allez dire que c'est sympa de toute façon.
Alors, en effet, il a une belle fraîcheur. Il est vif en bouche, hein, et une jolie longueur. Il est très agréable.
Bon.
Pas une petite critique, je sais pas moi. Quand même.
Bon, voilà, c'était quand même un coup de. Alors c'était ouais, le coup de cœur, c'était pour le rouge, ouais.
Mais c'est bien parce que en fait, là aussi, comme le disait tout à l'heure Jacques, moi je pense qu'une petite blanquette avec une viande de Lozère et ça.
Oui, c'est ça.
On a tout de gagnant à la table des invités.
Ce qui voilà. Compte, c'est que nous, on n'est pas.
Nous, on fournit la viande ici.
Voilà, là, nous ici, hein, c'est voilà.
Nos plateaux sont super pour ça. Voilà, viande fromage, on s'occupe. Ouais, amenez-nous les bons vins comme ça, on arrivera à accorder. Rassurez-vous. C'est voilà. Fait, alors, c'était un bon choix tout de même. Hein. Ouais.
Oui.
Parfait.
Oui, non, une très belle, très beau début. Peut-être le temps qu'on remplisse les verres avec une autre proposition. Peut-être les coulisses de ce jury avec Jean-François. Comment ça se passe ? Vous vous mettez à table ? Vous avez des bouteilles avec des... Enfin, comment ça se passe ?
Nous étions en fait à peu près 5 par table.
Oui.
On devait être une quarantaine de jury, de membres dans le jury. Nous avions 6 échantillons par table, des échantillons qui sont justement cachetés, donc numérotés. Pour les AOP, c'était A1 jusqu'à 12, il me semble, ou 16. Jusqu'à 16. Donc on a commencé à déguster le premier. On avait des critères. Nous avions 4 critères qui concernaient la couleur, le goût.
4 familles de choix.
4 familles de choix, pardon.
Et 5 niveaux de...
Et 5 niveaux d'innovation, voilà, ça va de insuffisant à
très
excellent.
Bon.
Voilà. Donc c'est vrai que nous avons été très concentrés au niveau des jurys pour noter, parce qu'on note pas un vin, on note aussi le travail qui a été fait par le vigneron derrière. Donc on est revenu sur certains vins pour revoir justement en comparant les uns par rapport aux autres. Et puis on a aussi échangé avec la table qui était à côté sur les 3 meilleurs, pour justement essayer de concorder, de voir si ça correspondait ou pas, de faire une moyenne.
Il y a voilà. Eu débat, parce qu'effectivement, on s'imagine que c'est aussi une question, il y a une part de subjectivité quand même dans la dégustation d'un vin. Comment est-ce que...
Oui, il y a des débats, effectivement, mais on était... il y a des débats sur le goût. Après, le goût, c'est tellement subjectif Voilà. Mais on essayait quand même d'être, de ne pas s'influencer les uns les autres. Donc chacun notait et après on faisait la moyenne.
Voilà, en fait, le débat il intervient qu'une fois que l'appréciation individuelle a été faite et les résultats consignés. Il y a un petit commentaire derrière, on plaisantait tout à l'heure, mais c'est assez rigide. C'est d'ailleurs une atmosphère assez discrète.
Studieuse. Hein.
Voilà. Chacun va faire une appréciation qui lui est propre et c'est après la réunion de ces résultats-là. Mais comme on a été obligé, compte tenu du nombre d'échantillons, de répartir ceci sur plusieurs tables, il est évident que toutes les tables n'ont pas une même façon de noter, d'apprécier. On a des bénévoles et on a des professionnels. Donc il faut aussi trouver une mesure qui soit valable pour tous et traiter ceci de façon égalitaire. Donc l'idée, c'est que là aussi, à chaque fois, quand la table a fini son résultat, les vins reconnus les meilleurs sur cette même table-là sont mixés avec les tables voisines de telle manière que tout le monde ait sa chance là-dessus. Et je crois qu'on a été rigoureux, puisqu'on a... autour de cette table, des gens qui ont participé au concours, ils ont pu voir à quel point on tient à cette forme d'égalité qui n'est pas quelqu'un de favorisé par rapport à un autre. Et on n'attache pas d'importance non plus à la forme de la bouteille. On peut avoir de la bordelaise, de la bourguignonne, toute autre chose, on s'en fiche. Ce qui nous importe, nous, c'est que comme la bouteille est anonyme, tout le monde va pouvoir l'apprécier comme ceci. Et une fois que les résultats sont connus, oui, on va ouvrir un débat parce qu'on est curieux, nous aussi, de savoir... qu'est-ce qu'on a pu découvrir sur les autres tables, comment ça a été ressenti. Et ce que je voulais dire, en reprenant le micro, et pardon de monopoliser le coin, mais c'était que c'est pas parce qu'un vin n'a pas été primé qu'il n'est pas bon. Le vigneron, il n'est pas dans son flacon. Alors, il a beau faire quelque chose de super bon et tout, il n'est pas à l'abri d'avoir un bouchon de mauvaise qualité, d'un mouvement tout à fait incontrôlé ou autre. Alors, autant il aura fait un super beau travail, et puis ce jour-là, ben, pof, c'est la mauvaise bouteille, c'est le mauvais échantillon. Et ça, c'est dommage. Mais malheureusement, dans le concours, on est obligé d'apprécier ce qu'on nous présente. Et on ne peut pas, même si on sait ou qu'on connaît le domaine, bon, de toute façon, ce n'est pas en question, on ne peut pas faire autrement.
Quand on est vigneron et qu'on a des vins qui concourent, on regarde ce qui se passe. On vient regarder les dégustations ou on est interdit de ça où on se dit bon, on les laisse faire et on verra ce qu'il en ressort.
Les vignerons faisaient partie.
Ah, ils faisaient partie du.
Certains vignerons faisaient partie effectivement du membre du jury.
D'accord, très bien.
Mais on ne déguste.
Pas les vôtres,
alors,
oui, évidemment.
Certes, mais on participait au concours sur une sélection à laquelle on n'a pas participé personnellement. Hein
Oui, parce qu'en amont, lorsque moi je fais la répartition des vins et en fonction des jurys qui vont être déclarés, effectivement, je vais carrément ne pas mettre le producteur en rapport à son vin.
Oui, c'est ça.
Il le connaît trop, ça serait un petit peu dommage. Et puis en plus, même lui, il se sentirait très mal à l'aise de se retrouver avec un échantillon primé à sa propre table, quoi. Ça ferait vraiment très moche.
Bon, on va passer maintenant à un vin médaille d'or.
Ah,
médaille d'or de cette.
Et en plus, on goûte le vin qui n'a pas encore été complètement écoulé.
De cette catégorie.
Vin primé.
AOP, AOC, donc avec le domaine Cantevigne. Et c'est le Cantevigne rouge qu'on goûte, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors peut-être présentez-nous un petit peu votre domaine, où il se situe, et un petit peu qu'est-ce qui fait le terroir de votre vin.
Alors, domaine Cantevigne, c'est une propriété de mon mari et de moi-même qu'on a construite ces 15 dernières années. On se situe à Saint-Christol, dans l'Hérault. Pour situer plus précisément, donc ça se trouve entre Nîmes et Montpellier. À 20 minutes du bord de mer, on est sur les premiers, tout premiers contreforts, les tout premiers coteaux. Voilà, donc on a un terroir d'exception comme ça par cette situation géographique entre terre et mer très précieuse.
Et alors, quel vin vous produisez dans cette propriété ?
On produit bon, les trois couleurs, hein, un blanc, un rosé et trois rouges. Ce sont des vins qu'on veut typiques de leur terroir, Ils ont vraiment le caractère de leur situation géographique et on soigne ça. Donc on laisse, déjà par le choix des cépages, qui sont des cépages traditionnels du Languedoc et adaptés au terroir de Saint-Christol. Hein, donc sur le blanc, on va choisir un grenache blanc roussanne en cépage. Les rouges vont retrouver les cépages grenache, carignan, syrah, un peu de mourvèdre. Et dans le cante-vigne rouge qui a été sélectionné, donc c'est un assemblage grenache, carignan.
On pourrait juste préciser un petit peu que là aussi, c'est un domaine, pas un domaine familial, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Cette dame donc, et son mari ont racheté progressivement et ont réorganisé un vignoble autour d'une quinzaine d'hectares. C'est ça à peu près, voilà.
Oui, il y a un côté quand même, un côté fou, c'est-à-dire au moment où on est en pleine crise viticole, où c'est de plus en plus difficile, en tout cas de le vendre, son vin, et on a là un jeune couple qui... Alors, en off, c'est quand même... Vous ne découvrez pas le vin. Madame est issue d'une famille de vignerons, de, si j'ai bien compris, de génération en génération.
Oui, oui, oui.
Mais enfin, il y a quand même le coup de se lancer, de se dire... Ben, c'est pas grave, on y va, ça va être la galère, mais on a envie, et l'envie bon, est plus forte que tout.
Oui, alors toutefois, bon, un coup de c'est pas quand même un coup de folie, en effet, même s'il faut oser. D'ailleurs, une de nos cuvées s'appelle Audace. Mmh.
C'est une médaille de bronze, hein, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, parce qu'ils ont tout raflé, hein. On en reparlera tout à l'heure, mais... La preuve que ça se faisait en cachette et qu'on n'a pas triché, parce que sinon on aurait mieux réparti. Pour qu'il y ait plus de gagnants, là on a un domaine qui a tout gagné.
Mais en même temps, on le fait progressivement, puisqu'on a acheté en effet nos 12 hectares à partir des années 2000-2002. On a réorganisé également, comme vous le disiez, parce que certaines parcelles qu'on avait achetées étaient trop vieillissantes ou bien un cépage inadapté au terroir. Donc on a arraché et replanté quelque chose de plus qualitatif et qui permette aussi une harmonie pour nos assemblages de vins. Voilà, mais après, oui, sur le côté folie, moi, quand je décris nos vins, quand les consommateurs me disent « Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre vin ?», ils attendent le nom des cépages, donc je le leur donne bien sûr, et puis je complète en disant « Eh bien, beaucoup de travail, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. »
C'est ça.
C'est effectivement ce qu'on entend à la fois, ce qu'on a entendu hier et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est aussi cette passion de faire du vin. Alors l'avis du sommelier sur ce vin.
Bien, ben déjà on peut commencer à l'observer, toujours pareil. Hein, donc vous savez que quand on déguste un vin, il y a trois phases.
La première... Mais c'est pas Guy, on passe pas tout de suite à boire.
Non mais moi j'ai très rapide pour toutes ces choses-là. Quand c'est bon, j'apprécie rapidement.
On ne brûle pas les étapes.
Ouais, puis, j'avais fait déjà du préchauffage.
Oui, et puis bon, il les a dégustés hier.
C'est
aussi.
Ça, c'est ça. C'est
ce matin aussi.
Donc la première étape, ben, c'est de l'observer. Donc voilà, donc on observe le vin, donc on penche le verre comme ceci là devant soi et on mettra donc le vin sur un fond blanc et je vais regarder à la limite du verre et du vin, ça veut dire à l'endroit où j'ai le moins de vin dans le verre et là je vais regarder quelle est la couleur. Donc si c'est une couleur un peu violacée, un peu rubis, eh bien, c'est signe qu'on est sur un millésime qui est très jeune. Donc là vous pouvez vous amuser à le faire et donc vous voyez que quand même on a un petit côté violacé. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un millésime de 2014. Donc, c'est un vin qui est jeune. Donc, c'est comme ça qu'on détermine l'âge d'un vin sans voir le millésime d'une bouteille. Et au fur et à mesure, en fait, que le vin va vieillir, eh bien, le vin va changer de couleur. Et il va passer du violacé rubis à un côté couleur un peu orangé, brique. Qu'est-ce qui fait que le vin change de couleur? Eh bien, c'est l'oxydation de l'air. Au fur et à mesure que le vin est gardé en bouteille, il y a une micro-oxygénation qui est faite par le bouchon et l'air va venir oxyder le vin et c'est la raison pour laquelle il change de couleur. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de très jeune. Ensuite, on peut mettre le nez dedans. Allez-y. Voilà, donc on peut faire tourner le verre. Hein. Donc, le verre, c'est pour faire monter en fait, les molécules qui sont les plus lourdes. Hein. Voilà. Donc, et maintenant, à vous de me dire ce que vous ressentez, puisque l'avantage d'une dégustation, c'est qu'on ne déguste jamais seul, déjà, pour commencer. Hein, donc on est à plusieurs, et ensuite ce qui permet ben, de partager nos sensations. et ben, de pouvoir en parler. Donc, les gens qui sont autour de la table, dites-moi à quoi ça vous fait penser.
Je sais pas, moi, je dirais un peu la groseille, non ? Un truc comme ça, non ?
Ouais, donc on serait sur des fruits, bien sûr.
Des fruits rouges.
Hein, des fruits rouges, voire des fruits noirs. Hein, oui. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Après, il y a que moi, j'ai un rhume depuis deux semaines. Donc, j'ai le droit à...
Bon, c'est vrai, c'est vrai que quand c'est compliqué, ça demande d'être minimum informé pour déguster.
Non, mais là, il va faire un plateau radio avec, par contre, dégustation des Châteaux La Pompe 2015-2016.
C'est ça. Je crois que c'est plus raisonnable.
Voilà, donc écoutez, ben, on peut le déguster si vous voulez. Allez-y.
Chers auditeurs, on déguste.
Voilà, donc on peut voir quand même, bon, c'est un vin qui est relativement puissant, hein, il y a de la c'est concentré. Donc ensuite, ben, il y a une jolie fraîcheur quand même. Hein, donc, alors quand on parle de fraîcheur...
On avait oublié la technique pour voilà. Ceux qui ne nous voient pas. Ils commençaient à nous couper les micros et donc on remplit son verre.
Donc quand on parle de fraîcheur dans un vin, on parle d'acidité en œnologie. Hein, ce n'est pas la fraîcheur, ce n'est pas le degré en fait, de service du vin. Quand on parle de fraîcheur, on parle d'acidité. L'acidité dans un vin est une chose importante, hein, puisque tout à l'heure on parlait de buvabilité. Et bien en fait, l'acidité, c'est ce qui va donner le côté désaltérant de la boisson. Donc c'est important qu'il y ait une bonne acidité dans les vins. Et nous, c'est vrai que dans la région, on a un petit souci, si vous voulez, avec l'acidité. C'est que comme il fait très chaud, hein, on a du soleil, oui. Nous, effectivement, hein, et donc on fait des vins un peu solaires. Oui. Et c'est vrai que plutôt, eux, dans le nord de la France, ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire du degré. Par contre, ils ont beaucoup d'acidité. Donc c'est un peu la différence que l'on fait, mais bon, le travail des vignerons aussi hein, font que, par leur terroir aussi, on arrive à avoir quand même de belles acidités, des maturations un peu plus lentes, malgré la chaleur. Voilà, donc et maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait associer à ce plat ?
Du rouge, j'ai
à
compris.
À ce vin, pardon.
Des viandes rouges, qu'on vend aussi d'ailleurs et qu'on fabrique, qu'on a en Lozère.
Oui. Mais je crois que quand même, comme c'est un vin un petit peu jeune et tout, on peut aussi partir déjà depuis la grillade jusqu'à quelque chose qui commencera à être un petit peu soigné en cuisine. C'est quand même un vin qui est frais, qui est agréable. Il est à partager dans une soirée sympa. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec une grande cuisine pour un vin comme ça. L'important, c'est d'avoir les bons amis autour du verre. Hein. C'est surtout ça. À mon sens, c'est ça.
Des amis rouges, donc là, plutôt.
par exemple. Mais par contre, on a un petit nouveau qui vient de nous rejoindre. Oui. C'est le Clos Sorian. On pourrait lui demander un petit peu son avis sur un vin qui est fait par une voisine, finalement.
Parce ça, c'est le
pas
piège,
si loin que ça.
Hein. Parce que c'est votre voisine, c'est une femme, une collègue. Soyez sympa.
Bonjour. Je ne sais pas. Moi, je suis très mauvais dégustateur. Encore, je suis jeune. Je n'ai pas beaucoup de bouteilles.
Ça veut dire qu'il n'a pas aimé et qu'il n'ose pas le dire.
Et non, j'ai trouvé en effet, je retrouve la fraîcheur dont on a parlé, je retrouve le fruit, la groseille, comme a dit un intervenant. Je trouve la remarque de l'associer avec de la grillade ou avec des vins, avec des viandes rouges, oui, c'est pertinent. Après, oui, ça peut être.
Parlez bien dans les micros, sinon on ne vous entend pas.
Un lapin au thym. Et ça, on aurait dû demander. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à ce qu'on monte avec le lapin au thym ? On viendra à Saint-Christol, parce que maintenant, moi, j'ai compris qu'en plus, on était amis d'amis, et donc là, vous êtes grillés. Donc, la prochaine fois que je descends à Saint-Christol, je veux le lapin au thym.
Voilà, cuit au four.
Cuit au four.
Bien.
Voilà, ce qui veut dire que même avec des vins rouges, on peut prendre quelques petites viandes un peu particulières. L'accompagnement de la viande va donner aussi une couleur un petit peu à cette cuisine méridionale. Et c'est vrai que c'est un vin qui est très sur le soleil. On parlait hier de l'élégance des vins du Languedoc. Et bien voilà, vous avez la preuve là que même déjà avec des vins jeunes, on l'a vu sur le coup de cœur, on le voit avec maintenant le Cantevignan rouge, on commence dès les premiers vins, la première jeunesse, à avoir déjà de l'élégance, déjà le soleil du Languedoc. Ça, c'est important.
Alors, on a parlé tout à l'heure des degrés. Alors, je ne sais pas si vous avez employé d'ailleurs un terme, la buvabilité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Et je me suis une question tout à l'heure, et puis qui vaut peut-être aussi sur ce vin. Est-ce que moi, au regard de ce que vous disiez, je me disais, tiens, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dégustation un peu plus féminine aujourd'hui ? Vous parliez de consommateur, j'avais envie d'entendre consommatrice. Est-ce que ça joue dans le goût goût des vins et aussi aujourd'hui, effectivement, ce côté où on attend à ce que ce soit pas, ça nous tape pas. Là, on est quand même sur du 14 degrés. Tout à l'heure, on était le coup de cœur qu'on n'a pas eu parce que rupture de stock, je ne sais pas combien il est aussi sûrement dans ses 14 degrés aussi. Est-ce que le degré joue dans la buvabilité? Est-ce que comment vous... Alors, comment ça se joue tout ça? Parce que nous, on, voilà, quand on va acheter du vin, on regarde le pourcentage, on se dit, voilà, 14, ça va taper.
En fait, ce qui est important dans un vin, c'est que, par exemple, si j'ai un fort degré alcoolique, donc il faudra que j'ai de la matière, en fait. Il faudra que les vins, voilà, soient, aient de la matière, parce que sinon, si je n'ai pas de matière, en fait, ce que je vais ressentir, c'est uniquement l'alcool, quoi. Donc, l'avantage que nous, on fait quand même ici, c'est qu'on fait du degré, mais aussi on fait de la matière. C'est des vins concentrés. Et je veux dire, et c'est ce qui permet de supporter, en fait, le degré alcoolique de nos vins. Et de toute façon, pour l'associer à certains plats, on est obligé d'avoir de la matière et un peu de puissance. Parce que, bon, je veux dire, c'est vrai que sur un vin rouge, quand on me dit ce vin, ça irait bien sur une viande, oui, mais quelle viande? Parce que vous comprenez bien que sur un carpaccio ou sur une côte de bœuf, le vin sera complètement différent. Hein, si on veut rentrer un petit peu dans les détails. Donc effectivement, il nous faut des vins concentrés. Et de toute façon, nous, avec nos terroirs, on fait des vins concentrés, quoi. Voilà, c'est vrai, voilà. Puis c'est vrai que les rendements sont moins importants, c'est plus concentré. Et puis, voilà, et puis c'est des vins avec de la matière, c'est des vins solaires. Voilà, c'est des vins qu'on aime de toute façon. Maintenant, il faut ne pas hésiter à boire des vins hors région, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à boire nos vins, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont magnifiques aussi ailleurs, et puis ce qui permet de se faire un goût différent, quoi. Parce que c'est vrai que quand on boit nos vins, et que, par exemple, si on va sur un Beaujolais village, on va se demander si on n'a pas rajouté de l'eau, quoi. Hein.
Exact.
Parce que c'est très clair. Donc voilà, mais d'ailleurs, on va goûter le Clos Orient tout à l'heure, qui est un peu, voilà, la particularité, c'était sur un vieux millésime, c'est ça, Guy, qu'on a dégusté, hein?
Alors, Clos Orient, vous avez été sur un vieux millésime, vous avez été primé, voilà, oui, d'accord. Mais en fait, Clos Orient, eux, ils sont la double appellation, puisqu'ils sont en coteau de Languedoc, mais ils sont également en grès de Montpellier. Bon, hier, par contre, vous avez été distingué sur les coteaux du Languedoc et pas les grès de Montpellier. Par contre, je tiens à préciser que régulièrement, depuis que Clos Orient se présente à l'amende, ils repartent toujours avec un prix. Alors, où est le mystère?
C'est qu'ils font du bon vin, tout simplement.
Ah, il y a peut-être ça, oui, ou alors c'est peut-être l'histoire de la barbe. Je sais pas. Enfin bon, le résultat, il est là. Non, mais sérieux, vos vins sont fidèles, ils sont réguliers en qualité. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'ici, c'est une génération de jeunes, en fait, de nouveaux, hein, qui travaillent la vigne. Et on s'aperçoit aussi que les nouvelles techniques, la réflexion, ça peut aider à mener un domaine à un niveau d'excellence. Et de constance dans l'excellence. Voilà. Alors, écoutez, je sais pas. Après,
oui, on va. Je pense qu'on va se.
On attend le lapin au thé.
On va changer de. Je pense qu'on va changer de verre. Effectivement, hein, faire le tour pour tout le monde. Et entre temps, on va peut-être évoquer avec vous l'activité des Sarmentelles. Et alors, quand je suis arrivé tout à l'heure, vous étiez en train de faire votre marché tous les deux là.
Là, c'est le trésorier là, qui parle.
Moi, j'avais pris le trésorier, donc je vous le laisse et il est là.
Donc, on fait une dégustation tous les premiers vendredis de mois. Et là, effectivement, tout à l'heure, avec Guy, avec Claude aussi, on faisait un petit tour des stands qui ont été primés pour acheter 2 à 3 bouteilles, qu'on puisse justement les faire déguster auprès des adhérents lors des dégustations.
Donc, c'est une association avec des adhérents. Et ces adhérents-là, leur spécificité, c'est qu'ils participent, entre autres, à vos dégustations.
Voilà, oui. Alors on fait des petits plateaux fromage. On amène de la charcuterie et autour du vin blanc. On commence par un vin blanc, ensuite un vin rouge. On fait des dégustations avec justement l'œil très connaisseur de Guy qui nous oriente sur les. Voilà, il nous fait deviner effectivement les saveurs, la couleur.
L'objectif, c'est de se former sur la dégustation.
C'est... L'objectif, voilà, c'est de changer un petit peu l'image du vin. On avait l'impression que le vin était un produit de grande consommation, basique. On ne cherchait pas à comprendre.
Pour alcoolique.
Et aujourd'hui, par exemple, mais non, c'est vrai, on en rit, mais c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un produit qui est tellement plaisant, qu'on a vraiment envie de le partager avec des gens qu'on aime bien, etc. Se faire plaisir aussi. Et on s'aperçoit surtout que c'est un super ingrédient à prendre en compte quand on veut faire un bon repas.
mon repas. C'est bien sûr une belle cuisine, mais c'est aussi un très bon vin à côté pour l'accompagner, le mettre en valeur. Et c'est ce partenariat entre l'un et l'autre qui vont faire qu'on va se régaler autour d'une table. Alors, qui aime bien, châtie bien, mais ici, ce n'est pas du tout les termes qu'on va employer. On va essayer d'associer tout ce qui est bon ensemble. L'idée de l'association Les Sarmentelles, c'est bien sûr de faire la promotion des vins du Languedoc, Languedoc-Roussillon, et on ouvrira bien sûr sur les vins Midi-Pyrénées. Mais c'est également de leur montrer qu'on n'est pas obligé de prendre les grandes étiquettes, les grosses machines de guerre du commerce pour trouver de la qualité. On l'a à notre porte. En plus, maintenant, avec les réseaux, ces petits producteurs viennent ici directement. Alors, on en retrouve, ils ont 4-5 hectares en production, d'autres jusqu'à 50 hectares. Mais ils ne passent pas forcément par les gros réseaux de distribution. Et effectivement, pour les trouver, soit on va chez eux, soit on va sur les petits marchés et on va trouver de très, très belles choses. Voilà, l'association, ça permet bien sûr de former des collègues sur la consommation du vin, mais également le stockage, le principe d'achat, comment les associer, bien sûr. Et également, revoir un peu sa géographie. Ça nous permet aussi, on fait une sortie par an, on part 2-3 jours et on va carrément à la rencontre des producteurs sur les secteurs mêmes. On est allé faire Bagnoul, on est allé faire La Clape. On va découvrir un peu leur environnement. Oui, on voit un petit peu ce qui se passe dans les vignes, etc. Et puis, cette année, on a découvert un petit peu du travail en cuverie. Voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Et on échange là-dessus.
Une question pour le trésorier, là, parce qu'on a abordé tout à l'heure. Et le coup de cœur, vous avez précisé qu'il était pas cher. Comment est-ce qu'on fixe, alors c'est à la fois aux trésoriers, mais aussi à ces gens qui ont la chance de le faire et de le vendre, on en parlait tout à l'heure, comment est-ce qu'on donne le prix de sa bouteille? Comment on décide que sa bouteille, elle coûte 5, elle coûte 10, elle coûte 15, elle coûte 20? C'est quand même un sacré pari, une sacrée subjectivité, ce prix de la bouteille.
Alors bon, on en calcule bien sûr des coûts de revient, donc sur une bouteille... Ça peut divers en prix. Le verre, par exemple, peut partir d'un certain prix jusqu'à un très gros. Les étiquettes, pareil. Bouchons, pareil. Et la qualité du produit, c'est-à-dire le rendement aussi, rentre en compte. Le travail effectué au vignoble. Donc tout ça est un calcul très, très, on va dire, très important à effectuer. Et c'est comme ça qu'on détermine le prix d'une bouteille, quoi. Voilà, en gros.
Après, le travail qu'il a fallu et le coût effectivement voilà. Qu'il a fallu pour le produire.
Alors je ne rentre pas tout à fait dans les petits détails parce que sinon on en aurait jusqu'à demain. Mais en gros c'est ça, c'est le prix de la matière sèche et le prix de la matière première quoi, pour faire venir. Quoi.
Mais après il y a une partie de subjectivité. Par exemple on peut certainement y mettre beaucoup d'argent, c'est-à-dire mettre une superbe étiquette, une bouteille qui coûte cher.
Il passe du temps. Hein.
Et le vin peut être mauvais et du coup on a l'impression que ça, le prix n'en vaut pas.
Oui, c'est sûr, mais bon, on sait très bien ce qu'on met en bouteille. Quoi.
C'est ça, en général, vous ne mettez pas du mauvais vin dans des belles bouteilles.
Bien sûr, tout à fait. C'est on ça. Adapte ce qu'il faut adapter dès le départ au vignoble aussi. Hein, quand on commence à faire du travaux en verre, etc. Donc systématiquement, on sait que le millésime sera toujours plus important que la personne qui ne travaille pas sur le vignoble. Quoi.
Puis il ne faut pas oublier qu'on est quand même aussi là entouré de professionnels. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont besoin de fidéliser une clientèle. Ils l'ont déjà fidélisé. Donc demain, ils ne vont pas mettre super flacon avec n'importe quoi dedans. Quoi. Ils préfèrent au contraire peut-être alléger le packaging, mais en tous les cas, rendre fidèle le consommateur. Et moi, je les félicite parce qu'on se rend compte que les vins du Languedoc deviennent de mieux en mieux. Et ils occupent une place importante maintenant sur les cartes dans les restaurants. Vous allez... un peu partout dans la région, tous les restaurants présentent 5-6 vins du Languedoc. Et ça, c'est intéressant parce que là aussi, on s'aperçoit que les coûts sont à la carte, ne sont pas excessifs. Quoi. On peut s'offrir un vin maintenant.
Bien sûr, on peut s'offrir un vin, heureusement. Heureusement.
Oui, alors moi, je vais profiter de la parole que vous me donnez. Je voudrais faire une réflexion à nos amis restaurateurs. Voilà. Donc, nos amis restaurateurs vendent du vin. Par contre, je voudrais qu'ils m'expliquent quelle est la raison pour laquelle... le coefficient multiplicateur qu'ils appliquent est le plus important sur la bouteille que sur les plats. Alors que faire un plat, ça demande quand même du temps, du monde, d'aller faire les courses, etc. etc. Alors qu'ouvrir une bouteille de vin, c'est très facile. Alors pourquoi ? Une bouteille qui vaut 3 euros, 4 euros au domaine, ou qu'ils l'achètent au domaine, ils vont la vendre à 25 euros. Moi, il faut qu'ils m'expliquent. Hein ? Et alors que le travail qui est réalisé en cuisine demande énormément de travail, et là-dessus, on ne prend pas d'argent. Donc je pense que il faudrait qu'ils se posent une question, c'est peut-être descendre un peu le coût, peut-être que les gens en prendront, mais peut-être deux, ou ils en prendront une. Et puis, ça permettra aussi de pouvoir proposer ben, d'autres vins, puisque nos amis restaurateurs oublient tout le temps, et je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué autour de la table, c'est que, par exemple, lorsqu'on nous amène un dessert, on ne nous propose jamais un vin avec le dessert. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec le dessert ? De l'eau, un café ? Non, il y a des vins de dessert qui existent. Et en plus, on en a des magnifiques dans la région, et personne ne sert des vins de dessert. Voilà. Donc, si quelques-uns de nos amis restaurateurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller acheter des vins de dessert. Et surtout, arrêtez, par pitié, de prendre de l'argent comme ça sur des bouteilles de vin, alors que c'est très facile d'ouvrir une bouteille de vin. Et en plus, ça ne périme pas une bouteille de vin.
Bon, voilà, le coup de gueule est lancé.
Le message est passé et on espère bien qu'il soit entendu pour que, dès la semaine prochaine, on puisse avoir des vins abordables.
Allez, je crois qu'on va peut-être maintenant s'intéresser un peu à Clos Sorian. Hein, il va nous dire un petit peu. Alors Sorian, je suis pas certain que ce soit le nom du jeune homme qu'on a à côté. Il va nous expliquer tout ça et puis aussi nous parler un petit peu de son domaine, puisque là aussi, il y a pas une surface extraordinaire, hein, mais tout est bien travaillé.
Bonjour, alors le Clos Sorian, c'est un domaine qui se situe à Poussan. Pour ceux qui ne voient pas très bien, c'est au-dessus de Sète, au-dessus de l'étang de Thau. Donc on n'est pas loin de la mer. Le domaine s'étend sur 7 hectares et demi et l'encépagement est principalement du Syrah et de la Grenache, ou du Grenache et de la Syrah, et un petit peu de Merlot aussi. Donc ici, j'ai présenté au concours le vin le Clos Sorian 2010. On est sur un assemblage de Syrah et de Grenache avec 55% de Syrah et 45% de Grenache. Et sur ce vin, on fait aussi un élevage de 12 mois en barrique. C'est des barriques qui ont déjà 2-3 vins, parce que l'idée, c'est pas de lui donner des notes boisées. C'est vraiment de commencer l'élevage dans la barrique par la micro-oxygénation et qui va ensuite se poursuivre dans la bouteille. Parce qu'en effet, on propose aujourd'hui à la vente des 2010 exclusivement. On a comme principe au domaine, puisque mon père vient du Bordelais, et dans le Bordelais, la spécificité, c'était qu'on pouvait acheter des vins qui étaient déjà gardés. Ce travail n'était pas fait par les vignerons, mais plutôt par les négociants. Et nous, on a choisi de le faire dans le Languedoc pour initier un petit mouvement et surtout proposer des vins qui sont au top de leurs possibilités et puis que les gens pourront boire tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus les moyens de stocker du vin et puis d'attendre surtout pour le boire. Voilà. Voilà pour ce que je dis.
Alors ce vin, qu'est-ce que vous proposez votre gamme de vins ? Dans celui-là, il se situe
Alors celui-là, c'est le vin vraiment emblématique du Clos Sorian. C'est celui qu'on fait le plus. À peu près, on fait 45 000 bouteilles par année. Celui-là représente à peu près 20 000 bouteilles. Le reste de la gamme s'étend avec une entrée de gamme sur un vin fruité léger qui s'appelle le Petit Grain, que l'on propose sur un 2013, donc avec plus de vivacité, un petit peu plus de fraîcheur et du fruit. Et puis ensuite, on a le Merlot Grenache qui est avec 80% de Merlot et 20% de Grenache. Là, on retrouve un petit peu la pâte bordelaise de mon père. Et ensuite, on a au-dessus, en plus haut de gamme, un Grès de Montpellier. Qui est encore sur un assemblage Syrah et Grenache avec un petit peu plus de Syrah. Et on va être sur des parcelles différentes. On va être sur des parcelles un petit peu plus sablonneuses avec des galets roulés en surface, ce qui va faire un sol un petit peu plus drainant. Et donc des raisins encore plus concentrés avec des rendements un peu plus inférieurs. Et ensuite, pour finir, depuis 2013, par le négoce, on essaie de mettre en valeur les autres un peu oubliés du Languedoc, notamment la Méjanelle. Là aussi, la Méjanelle qui remonte un petit peu dans le Languedoc et qui fait vraiment d'excellents vins. Voilà, pour l'étendue de la gamme.
Alors peut-être celui-ci, le regard du...
Bon, mais écoutez, ben, pareil, hein, on peut reprendre ben, toujours, on va à nouveau l'observer. Donc ben, on peut pencher le verre comme ceci, le mettre sur un fond blanc, voilà. Et on regarde toujours, pareil, à la limite du verre et du vin. Et qu'est-ce qu'on peut apercevoir là ? C'est que tout à l'heure, on avait un reflet légèrement violacé rubis, alors que là, pas du tout. Là, on commence à voir un côté cerise, même un peu grenat. Alors, ça veut dire que... ce vin a commencé à vieillir. Donc, si on vous regarde le millésime, vous pouvez voir qu'on est sur un 2010. Vous voyez, donc maintenant, vous êtes capable, la prochaine fois qu'on va vous inviter chez quelqu'un, on vous sert un verre de vin, amusez-vous à faire ça, et vous allez voir que vous allez rapidement pouvoir déterminer ben, si on est sur un vin jeune ou pas. D'accord ? Allez-y, ben on va faire un premier nez si vous voulez, allez-y. On va même pas aérer le verre. Hein. Voilà, donc et maintenant, à vous de me dire ben, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Quelle est votre sensation aromatique ? Alors c'est vrai que ça, c'est la partie la plus dure hein, dans la dégustation, hein, ce qui fait appel à la mémoire olfactive. Et c'est vrai que cette mémoire, ben, on n'a pas l'habitude de l'exercer. Donc effectivement, c'est compliqué de pouvoir déterminer, surtout qu'on est relativement là sur des vins un peu complexes. Donc c'est vrai que ça demande, parce qu'il y a plein d'arômes qui arrivent en même temps, et c'est vrai que discriminer chaque arôme, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui ressort de ce vin ? Ben, allez-y, dites-moi ce que vous ressentez.
Toujours le rhume.
Donc, ben, y a un côté un peu épicé hein, qui arrive, je ne sais pas si vous l'avez tous, hein, on a des épices qui arrivent. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Dans le micro.
Oui, un côté garrigue.
Oui, on bien sûr. On retrouve les petits bois de garrigue.
Voilà, donc c'est vrai que dans nos vins, on retrouve ce côté un peu garrigue. Hein, ce mélange, ben, ça va être du thym, un peu de laurier, tout ça qu'on retrouve un peu. C'est un peu la marque hein, de nos vins. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? On a un peu de fruits aussi hein, qui arrivent. Voilà. Et ensuite, ben, on sent un petit peu fumé, donc qui vient, je suppose, de l'élevage. Donc de ce vin qui est un élevage sur 12 mois, c'est ça ce qu'on a dit ? Voilà. Donc de 12 mois. Voilà, donc on peut le déguster si vous voulez. Allez-y.
Toujours aussi radiophonique la dégustation.
Oui. Voilà, donc il faut commenter.
Et il faut que je rappelle pour le CSA que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Et merci, merci Guillaume.
Je suis obligé de le placer au moins une fois.
On a oublié les crachoirs d'ailleurs.
Ouais. Oui, c'est...
Donc pour un 2010, ben, je trouve qu'il y a quand même une bonne fraîcheur. Hein. C'est pas mal ça. Ensuite, ben, on a un peu de sécheresse en bouche. Je ne sais pas si vous le ressentez. Mm. Hein, donc c'est ce qu'on appelle les tanins. Hein, donc les tanins est une composante du vin. Donc les tanins, ben, c'est important dans un vin puisqu'il permet de pouvoir conserver le vin un peu dans le temps. Et puis surtout, ben, ce qui va permettre de faire un bel accord. Puisque si on boit ce vin-là maintenant, c'est vrai que ça va nous gêner un peu ce côté un peu asséchant, qui n'est pas très très agréable. Mais c'est vrai que dès qu'on va l'associer avec quelque chose d'un peu gras, automatiquement, ça va venir lisser ce côté un peu sec. Et c'est là où ça va être intéressant de faire un bon accord. Donc plus je vais avoir de tanins dans un vin, par exemple, ce qu'on appelle de la mâche, et bien plus, je vais amener une viande qui va demander à être mâchée. Vous voyez, des fois, c'est compliqué, mais c'est simple à la fois. D'accord ? Donc, effectivement, là-dessus, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait servir ? Donc, de la viande rouge, oui, bien sûr. Hein, voilà.
Boeuf d'Aubrac.
Voilà. Et ben, alors, pourquoi pas ? Hein, voilà, hein. Un faux filet d'Aubrac, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait servir aussi ? Éventuellement, une gardiane. Oui, bien sûr. Oui, vous hein, voyez qu'on reste, voilà, et même un peu de magret, pourquoi pas.
Magret de canard. Ce qui marche très bien aussi, c'est la viande grillée, mais aussi la viande en sauce, pour rappeler ce côté gras qui va vraiment amplifier le côté velours du vin.
Voilà. Ouais, c'est ce que disait Guy sur,
sur les gardiennes.
Sur la gardienne, voilà.
Bien, alors ce vin, pour vous tous, on peut aussi le retrouver dans vos. Enfin, chez vous, on peut venir acheter chez vous ? Et qu'est-ce qui se passe quand on vient chez vous ?
Il y a des chiens qui aboient.
Alors mais... nous, c'est un peu compliqué sur le domaine puisqu'on a une activité qui est un peu éclatée. On a les vignes d'un côté, le chai d'un autre et le bureau et le caveau de dégustation d'un autre. Donc les vignes sont à Poussan, le chai de vinification est à Fabrègues et les bureaux sont à Montpellier avec le chai de vinification. Donc vous pouvez venir déguster les vins à Montpellier. Voilà.
Okay. On va où à Montpellier ?
Alors Montpellier, c'est dans le quartier des hôpitaux, facultés, dans la rue du Triolet.
Rue du Triolet pour le Clos Sorian. Pour nos amis du Cantévigne, on va à Saint-Christol directement ?
Oui, alors c'est plus facile. Tout est au même endroit.
Tout est au même endroit, dans la métropole de Saint-Christol.
Le petit village de Saint-Christol,
en effet. Le tout petit village de Saint-Christol.
Donc, au cœur des vignes, le chai est à côté de la maison. Et nos vignes, on les visualise de la maison aussi, puisqu'elles sont sur les coteaux juste en face. Et alors, ce qui est compliqué pour nous, pour recevoir les clients ou les visiteurs, mais qui demande juste un peu d'organisation, c'est que mon mari travaille seul sur l'exploitation. De ce fait, il est dans ses vignes. Et on ouvre le caveau tous les soirs à partir de 17h et un week-end.
Voilà, tout simplement s'organiser, de venir en soirée pour le week-end.
Et alors pour le domaine rock de Gachon, c'est surtout sur les marchés, mais
voilà,
aussi.
Nous, alors tous les matins, mais 4 fois par semaine, donc on est sous les marchés le matin, les marchés, on va dire, de petits villages. Et on a également le caveau qui est ouvert toutes les après-midi au domaine. Donc c'est un peu le même principe. On a le domaine qui est situé un peu à l'extérieur du village, donc à Cavisson, et on est ouvert toutes les après-midi. Mon épouse tient le caveau de 16h à 19h.
Et puis là, on peut enchaîner parce que vous êtes dans le Gard, vous dans l'Hérault, mais vous êtes quoi, à 10, 20
km? On n'est pas très loin, ouais, on va dire 20 km, allez.
C'est ça, allez.
Bon, ben voilà, on a fait effectivement un peu cette découverte de ces grands prix. Alors peut-être.
On peut dire que tous les médaillés n'ont pas pu se joindre à nous pour la table ronde parce que effectivement, on avait Château Valmy, il est seul sur son stand, on le comprend. On a également en Bouténac Sainte-Lucie d'Ossou qui a été primée. Bon, ce sont des gens, ils sont venus seuls et effectivement, l'idée c'est quand même de vendre un petit peu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette année, on a été gâtés, puisqu'on a été reçus dans cet espace Georges Fraîche, qui nous a mis à l'abri de la pluie. Et croyez-moi, vous savez que j'aime le vin, je déteste qu'on y mette des glaçons dedans, alors encore plus de l'eau.
Et exceptionnellement, il faisait pas beau cette année.
Et oui, c'est bon. Là,
d'habitude, on a un temps pas possible.
Oui, Forum des Vins, le premier, on fondait un petit faisait chaud, c'est et ça. Depuis, on connaît l'eau.
C'est ça.
Alors, bon, merci à la ville de Mans de nous avoir accueillis dans ce magnifique espace. Et la fête, elle continue jusqu'à ce soir. Il vous reste encore cet après-midi pour découvrir ces fameux vins. Alors, les primés, bien sûr, mais également les non-primés. Et ça va partir des Basses-Côtes-du-Rhône, si on peut dire, jusque là-bas à Bagnoles, où on va retrouver des vins extraordinaires. Je pense notamment à un collègue de Clos-Castel. Mais on a également de présents sur le salon les Cabridelles avec Elisabeth Boyer ou son ami Bertrand. Où là aussi, on l'a vu hier autour de la petite table qu'on faisait à votre compagnie, hein, un Sauvignon qui est extraordinaire. Et même les professionnels, enfin les professionnels, les habitués du Sauvignon sur le Languedoc, ils reconnaissent qu'elle se débrouille à merveille. Voilà. Donc toute cette découverte, tout ce petit déplacement en Languedoc, il faut le faire, il faut venir. Vous aurez vite fait de faire le tour de... C'est abrité, comme je le disais. Et en plus, on a associé à cette présentation des vins quelques stands, notamment les chocolats qui sont installés sur la région de la Canourgue, là, les Malakoff. On retrouve les saveurs du Gévaudan. Donc, on a quelques producteurs en fromage, en chocolat et en petites friandises, des choses comme ça. Donc, c'est parfait. Et en plus, on a également des petits ateliers qui sont menés par Jacques, donc le sommelier, et son collègue Frédéric Ducrot. Des petits ateliers qui portent sur l'association des vins avec fromage, par exemple, mais également apprendre à appréhender un vin dans sa globalité, etc. Tout ça, c'est gratuit. Alors, voilà, on vous attend.
Cet après-midi, jusqu'à 17h30, c'est ça?
Oui, même 18h, parce que là, maintenant, on est dedans. Autant profiter des bonnes choses.
Et puis, je rappelle quand même à nos auditeurs et que c'est la fête des pères et que ça me semble être une visite tout à fait appropriée, si mes filles m'entendent, pour effectivement amener son papa cet après-midi au salon et éventuellement, effectivement, offrir une belle bouteille. Merci à tous.
Merci en tous les cas au Sarmentel de nous avoir accueillis sur cet événement pour nous 48FM. J'espère que ça vous aura donné envie, chers auditeurs, de venir découvrir ces vins. En tous les cas, on a passé deux fins de matinée bien agréables entre la dégustation et puis l'expression de chacun, de vos passions, de votre travail. Et c'est toujours très, très intéressant, en tous les cas, de le partager. Et merci d'avoir pris le temps, chacun avec vos regards, de venir autour de cette table.
On peut dire merci quand même aussi à 48FM d'être une des radios à se déplacer quand on les rencontre, à accepter de venir faire des petits plateaux comme ça, où on peut enfin parler de ce qui nous concerne. Là, le sujet était le vin, mais au travers de ceci, présenter quelques petits producteurs et des producteurs qui sont des références. Voilà, c'est ce qui compose notre environnement immédiat. Alors, merci 48FM.
Merci.
Et vous savez nous parler avec du vin. On revient quand vous voulez.
À bientôt et bonne journée sur 48FM.
48FM. 48FM.